Coucou. Ah, vous m'avez manqué pendant cette pause de l'été, mais les AJVF sont de retour. J'espère qu'il y a encore quelqu'un.
Décembre 2013, Heather Elvis, 20 ans, quitte son appartement vers 2h du matin après un mystérieux coup de téléphone. Très vite, sa voiture est retrouvée dans un endroit paumé. Tous ses papiers sont à l'intérieur, mais aucune trace de la jeune femme qui s'est volatilisée en pleine nuit. Ce dont personne ne se doute à ce moment-là, c'est qu'Heather Elvis est en réalité tombée dans un piège mortel, soigneusement mis en place par un couple obsédé par sa personne, qui depuis plusieurs semaines lui faisait vivre l'enfer. Mais par honte et par peur d'être jugé, Heather avait gardé son calvaire secret pensant pouvoir gérer la situation toute seule. Entre triangle amoureux, jalousie maladive, marécage et alligator, l'histoire d'Heather Elvis a profondément choqué l'Amérique et s'apprête à vous rester en tête pendant de longs jours. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Mais avant d'aller plus loin, à ce moment précis, quelqu'un vous observe peut-être sans même que vous ne le sachiez. Chaque clic, chaque recherche que vous faites est enregistrée, sauf si vous utilisez NordVPN. Et ça tombe bien, c'est le sponsor de cet HVF. Comme par hasard, NordVPN, c'est un véritable garde du corps numérique. Une fois activé, paf, il bloque les sites malveillants, les trackers, les pubs intrusives, détruit virus et malware avant qu'ils ne s'infiltrent dans votre ordinateur. Avec NordVPN, géolocalisez-vous n'importe où en un clic. Par exemple, je passe de Paris à New York et je débloque le Netflix américain, Disney Plus et son catalogue international et ses films exclusifs. Mais vous pouvez aussi vous connecter à Tokyo et débloquer des sites japonais sur lesquels vous trouverez votre bonheur en animé et manga. Bon, puis si vous voulez rester soft, sur YouTube suisse et belge, vous avez l'intégralité de Kaamelott. Bref, NordVPN, c'est le logiciel à avoir sur son ordinateur ou son téléphone pour naviguer sereinement et en toute sécurité. Surtout qu'en ce moment, 4 mois sont offerts sur l'abonnement de 2 ans qui vous revient donc à moins de 3 euros par mois. Satisfait ou remboursé pendant 30 jours, utilisez mon code HVF et mon lien nordvpn.com/HVF pour profiter de l'offre. Tout est dans la description. Notre histoire prend place aujourd'hui, une fois de plus sur cette chaîne, aux États-Unis d'Amérique, en Caroline du Sud cette fois-ci. La Caroline du Sud, c'est l'une des 13 colonies originelles fondées en 1663 qui formeront plus tard les États-Unis d'Amérique, sans qui cette chaîne n'existerait pas, tant ils nous ont fourni les plus grands psychopathes de l'histoire criminelle. L'état de la Caroline du Sud s'est rapidement développé grâce à ses plantations de riz et d'indigo, une plante utilisée pour faire de la teinture bleue, puis plus tard de coton. Une prospérité construite sur l'une des pages les plus sombres de l'histoire américaine, l'esclavage colonial. Notre décor aujourd'hui, c'est la ville de Myrtle Beach. Située au nord de l'État, Myrtle Beach s'étend sur 100 km de plage le long de la côte atlantique. C'est une station balnéaire qui attire plus de 15 millions de visiteurs par an. C'est un peu la destination balnéaire de la côte Est, un vrai petit paradis pour les vacanciers en quête de bronzage et de détente. Mais dès qu'on s'éloigne de la côte, le paysage change complètement. Le terrain devient plus hostile avec des forêts denses, des zones marécageuses et des propriétés rurales isolées. Cette campagne sauvage abrite plus d'une trentaine d'hectares de réserves naturelles avec 300 espèces d'oiseaux et une vingtaine de types de reptiles, dont des alligators qui seront plus tard au cœur de notre histoire. Puisque malheureusement pour vous, l'HVF, elle se passe pas du côté de la station balnéaire. Enfin, au début si, mais après on va partir au fin fond des marécages, c'est moins sympa, vous allez voir. C'est loin de cette agitation estivale, en décembre 2013, en pleine saison morte, que se déroule notre histoire. Les touristes sont repartis chez eux, les plages sont désertes, balayées par les vents froids de l'Atlantique. Les bars qui débordaient de monde quelques mois plus tôt tournent désormais avec Dédé et René qui refont font le monde toute la journée, bien contents que les touristes soient partis. Les immenses parkings sont vides, les mini-golfs ont fermé boutique et la grande roue qui brillait de mille feux est bien morne dans le brouillard hivernal. C'est dans ce décor de station balnéaire endormie où les habitants se connaissent tous, où les secrets circulent vite, que se joue notre drame du jour. Le 19 décembre 2013, Terry Elvis passe une journée comme toutes les autres. On est jeudi, le programme est simple et bien rodé, travail, retour maison, dîner en famille, un peu de télé et au lit. La routine. Le week-end s'annonce chargé avec l'approche de Noël. Il faut commencer à préparer les festivités. Comme chaque année, les Elvis ont prévu un dîner en famille suivi du rituel de l'ouverture des cadeaux au pied du sapin à minuit. Alors que normalement, les cadeaux ça s'ouvre le 25 au matin. Après sa journée de travail, Terry rentre chez lui. Le jour commence à décliner. L'hiver s'installe doucement sur la côte. Les journées raccourcissent à vue d'œil. Une fois arrivé chez lui, il a à peine le temps de se poser dans son canapé que... ding-dong, ça sonne à la porte. Terry se lève avec un soupir un peu agacé. Mais enfin, y a pas moyen d'être tranquille chez soi. En marchant vers la porte, il se demande bien ce que ça peut être. Un démarcheur, un voisin, il ouvre la porte et il tombe nez à nez avec un officier de police. Ça alors, il l'a pas vu venir.
Monsieur Elvis ?
Oui, c'est moi.
On a retrouvé une voiture immatriculée à votre nom, garée près d'une rampe de mise à l'eau, à quelques minutes d'ici. C'est normal ? Elle semble abandonnée et est-ce que... par hasard, elle vous a été volée ?
Alors Terry se penche pour regarder par-dessus l'épaule de l'officier. Il jette un œil dans son allée. Toutes les voitures sont bien là, alignées, sagement garées. L'officier précise.
Il s'agit d'une Dodge Intrépide vert foncé, d'après ce qu'on m'a dit.
Le cœur de Terry se serre d'un coup. Ah, il l'avait oublié celle-là, mais effectivement, cette voiture, il la connaît bien. C'est celle que conduit sa fille aînée de 20 ans. Heather, elle vit dans son propre appartement à quelques kilomètres de là et la voiture est toujours au nom de son père. L'officier explique que la Dodge Intrépide a été retrouvée abandonnée en travers du parking de Peachtree Landing, un embarcadère isolé au bord de la rivière Wakama. Abandonnée, le mot résonne dans la tête de Terry comme un coup de massue. Heather n'abandonnerait jamais sa voiture comme ça, surtout dans un endroit pareil. Elle y tient comme à la prunelle de ses yeux et puis elle s'en sert quotidiennement pour aller travailler, ça n'a aucun sens. Peut-être bien qu'elle a été volée alors. Terry tente d'appeler Heather, mais son portable semble éteint. L'officier propose à Terry de le conduire sur place pour reconnaître la voiture et, le cas échéant, la ramener avec lui. Elle n'a de toute façon rien à faire là-bas, cette voiture. En plus, elle est stationnée n'importe comment. Elle gêne le parking pour les autres véhicules qui souhaiteraient accéder à la mise à l'eau. Terry attrape les clés de secours et il monte dans la voiture de police. Le trajet ne dure que quelques minutes, mais les pensées se bousculent dans la tête du père de famille. Qu'est-ce que Heather faisait à Peachtree Landing ? C'est imprononçable en plus, et elle n'y va jamais. Personne n'y va jamais. C'est un coin paumé où il n'y a rien à faire, surtout en plein mois de décembre. En arrivant sur place, Terry découvre une scène qui lui file la chair de poule. Là, garée en biais sur le parking mal éclairé de l'embarcadère, la Dodge Intrépide verte de sa fille. Seule, abandonnée au milieu de nulle part. Il s'approche du véhicule, le cœur battant. Les portières sont verrouillées. Il regarde par les vitres, à l'intérieur, des affaires qui traînent, des papiers, des trucs éparpillés un peu partout. Rien d'anormal, c'est le bordel habituel des heures et de n'importe quelle voiture d'adolescente. Terry ouvre le véhicule avec son double de clé, fouille rapidement et il trouve le permis de conduire d'Heather, mais son sac à main et son portable ne sont nulle part, ni dans la voiture, ni autour. Et surtout, le plus inquiétant, toujours aucun signe d'Heather, aucun appel, aucun SMS pour rassurer son père. Terry sort son téléphone et d'une main tremblante, il compose à nouveau le numéro de sa fille, mais il tombe une nouvelle fois sur la messagerie. Il raccroche et retente d'appeler immédiatement. Toujours rien. La panique commence à s'installer. Il se met alors à appeler tous les contacts qu'il connaît dans l'entourage de sa fille. Ses amis, ses collègues, sa colocataire Brianna, sa sœur Morgane. Mais personne ne l'a vue aujourd'hui. Personne ne sait où elle est. Heather. C'est comme volatilisé. L'officier, témoin de cette angoisse croissante, commence à prendre des notes. L'affaire prend une tournure beaucoup plus sérieuse qu'un simple véhicule abandonné. On est peut-être face à une disparition inquiétante. Personne ne se doute encore que cette découverte macabre au bord de la rivière Wakama va déclencher l'une des affaires criminelles les plus retentissantes de l'histoire de Myrtle Beach et faire tristement le tour du monde, au point même d'arriver à vos oreilles aujourd'hui. aujourd'hui. Les premiers enquêteurs mis sur l'affaire ont une première réaction logique, vérifier si Heather n'est pas simplement au travail. Elle a peut-être tout simplement laissé sa voiture là pour une raison quelconque et elle a pris un autre moyen de transport. Pas de panique pour le moment. Les enquêteurs se dirigent donc vers le Tilted Kilt, le restaurant où travaille Heather. Tilted Kilt, c'est une chaîne de restaurants américains, un peu comme Hooters, pour ceux qui connaissent. Ces restaurants misent sur un concept pour le moins vendeur. Les serveuses sélectionnées pour leur attribut physique servent de la bière et de la nourriture avec à peine quelques centimètres carrés de tissu sur le corps, le tout dans une ambiance pub irlandais. Heather adore son boulot, elle s'entend bien avec ses collègues, elle est du genre à arriver en avance et à repartir en dernière après avoir papoté avec tout le monde. Et justement, elle a des heures de prévu ce jour-là. Si tout va bien, alors elle devrait être au boulot et si elle n'y est pas, bah on va commencer à s'inquiéter. Malheureusement, quand les policiers interrogent ses collègues, le verdict tombe comme un couperet. Heather n'est pas venue bosser et selon ses collègues, ça ne lui ressemble pas du tout. Elle aurait prévenu, elle aurait appelé, elle aurait trouvé quelqu'un pour la remplacer. Jamais elle n'aurait fait faux bon comme ça. Pire encore, ici, personne ne l'a vu depuis plusieurs jours. Et pour une fois, ça va vous surprendre, mais ne criez pas, ça va réveiller les voisins, les autorités n'attendent pas une seconde. On ne dit pas à la famille que leur fille a probablement fugué, qu'elle est partie avec un garçon dans la pampa au milieu des alligators et que ça va, elle va revenir. Non, pour une fois, la réaction est rapide et efficace. Heather est officiellement portée disparue. Le département de police du comté ouvre immédiatement une enquête pour disparition inquiétante. Peachtree Landing se trouve tout au bout d'une longue route isolée. C'est un cul-de-sac qui mène au bord de la rivière. Des kilomètres de forêt dense s'étendent tout autour. L'embarcadère ne voit pratiquement jamais de circulation. C'est le genre de coin paumé où on vient avec un but pour mettre un bateau à l'eau ou pour l'en sortir. Éventuellement pour pêcher ou pour tester les suspensions de sa voiture avec une personne consentante. Mais on n'y traîne pas par hasard. Alors qu'est-ce qu'une jeune femme de 20 ans irait faire là-bas? L'inspection minutieuse de la voiture ne révèle rien de suspect au premier regard. Pas de vitres brisées, pas de traces de lutte, pas une goutte de sang. La Dodge semble parfaitement intacte, mais c'est justement l'absence de certains éléments qui intrigue les enquêteurs. Le sac à main de Heather, ses clés et son portable sont introuvables. C'est comme si Heather était venue ici en voiture, qu'elle s'était garée tranquillement, qu'elle était sortie du véhicule, qu'elle avait verrouillé les portières et qu'elle était partie avec ses affaires. Mais pour aller où, bon sang? La zone est complètement déserte, pas de route accessible pendant des kilomètres, rien qui soit atteignable à pied, elle n'a pas pu aller bien loin toute seule. Sans attendre, les enquêteurs vérifient aussi les hôpitaux et les centres médicaux du coin. Peut-être qu'elle a eu un accident, qu'elle a eu un malaise et qu'elle est quelque part en train de se faire soigner. Et là, bingo, un hôpital confirme avoir reçu une dénommée Heather Elvis la veille au soir. Elle est passée, elle s'est faite soignée, puis elle a signé une décharge pour repartir. Ah, enfin une bonne nouvelle, si elle s'est faite soigner, alors elle va bien. Faut juste la retrouver. Mais bon, on est dans une HVF. Après vérification, c'est une homonyme que l'hôpital a soignée. Il ne s'agit pas de notre Heather Elvis. Retour à la case départ. Les recherches s'organisent rapidement et massivement. Police, pompiers, volontaires, plongeurs. Des centaines de personnes se mobilisent autour de Peachtree Landing qui me fait fourcher la langue à chaque fois que je le prononce. C'est le dernier endroit où on imagine qu'Heather a pu se trouver. Les équipes ratissent méticuleusement la forêt alentour et les berges de la rivière pendant que des plongeurs fouillent l'eau froide et trouble mètre par mètre. La famille Elvis, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Avec des dizaines de bénévoles, ils parcourent la rivière en bateau, en quad, à pied et à cheval, fouillant chaque centimètre carré des bords de la rivière en amont et en aval de l'embarcadère. L'espoir et l'angoisse se mélangent quand des restes humains sont découverts près de l'embarcadère. Le cœur des proches s'arrête, mais l'analyse révèle rapidement qu'ils appartiennent à un homme et qu'ils n'ont aucun lien avec la disparition de Heather. Des flyers avec la photo de la jeune femme sont distribués partout dans la région. Les médias locaux puis nationaux reprennent l'affaire. faire. Le hashtag FindHeather fait rapidement le tour des réseaux sociaux. La famille se rend compte de la puissance incroyable de ces outils encore assez peu utilisés dans les cas de disparition à l'époque. Grâce à Facebook et Twitter, ils peuvent contacter instantanément tous les amis d'Heather, ses collègues, ses connaissances. Ils peuvent parler de la disparition de leur fille et demander des informations. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre, même si ça ne résout pas l'affaire pour l'instant. Au moins, tout le monde est au courant et peut ouvrir l'œil. Peut-être même que quelqu'un aura vu quelque chose. Pour pouvoir faire avancer l'affaire, les autorités vont devoir comprendre qui est Heather, qui sont ses amis, ses amours, ses problèmes. Et c'est aussi ce qu'on va faire, puisque vous allez voir que Heather, du haut de ses 20 ans, avait pas mal de petits secrets et de problèmes. Une étrange relation. Heather Elvis est née le 30 juin 1993 à Carolina Forest, en Caroline du Sud, à moins de 10 km de Myrtle Beach. Elle grandit avec sa petite sœur Morgan et son petit frère Chris dans une famille très soudée et très aimante. Chez les Elvis, on se serre les coudes, la famille passe avant tout le reste. Heather grandit donc dans le comté de Horry avec ses plages magnifiques et cette ambiance décontractée de la côte. Très vite, Heather se démarque par son caractère. Dès toute petite, elle est créative et ambitieuse. En grandissant, elle devient sociable, gentille et bienveillante. Elle est aussi responsable, elle connaît la valeur du travail et elle n'a pas peur de faire des petits boulots ici et là pour gagner ses premiers sous. Elle est très spontanée et elle aime faire la fête et profiter de la vie. Elle est aussi très indépendante. Heather, c'est une jeune femme libre d'esprit qui veut construire une vie qui lui ressemble. Elle aspire à être heureuse et elle est prête à tout pour y parvenir. En 2011, elle obtient son diplôme d'études secondaires. Et là, contrairement à beaucoup d'ados de son âge qui traînent des pieds pour quitter le cocon familial, Heather n'a qu'une hâte, c'est de voler de ses propres ailes. Elle veut son indépendance, elle veut sa liberté et se lancer dans sa propre vie. Ses parents l'encouragent et ils ont toute confiance en elle. Juste après avoir fini le lycée, Heather se trouve un appartement à Carolina Forest qu'elle partage avec sa colocataire et meilleure amie, Brianna Warholman. Heather a un rêve, une vraie passion, le maquillage. Depuis toute petite, elle adore transformer les gens, sublimer leur beauté, créer des looks incroyables. Elle rêve de travailler dans le cinéma. Elle sait que pour y parvenir, elle doit étudier. Et pour étudier, elle doit pouvoir payer une école. Elle trouve donc un job au Tilted Kilt, situé au Broadway at the Beach, un gigantesque centre commercial à l'américaine avec des boutiques, des restaurants et même un aquarium. L'avantage, c'est que l'endroit est animé et il attire une clientèle de touristes, de locaux et d'habitués, et tout ce beau monde donne des pourboires à gogo pour voir la jolie jeune femme sourire. Heather s'y plaît bien et le salaire n'est pas mauvais. En parallèle de son job de serveuse, Heather s'inscrit en école de cosmétologie. Et comme si son agenda n'était pas encore assez dense, elle fait aussi des extras au House of Blues, l'emblématique salle de concert de Myrtle Beach. Même si la vie d'Heather est bien remplie, elle ne manque pas une occasion de passer du temps avec ses amis et sa famille. Elle est toujours présente pour les occasions. Les bonnes comme les mauvaises, ses proches peuvent compter sur elle. Elle est chaleureuse et positive. Tous s'accordent à dire qu'elle n'aurait jamais disparu de son plein gré sans prévenir son entourage. Elle n'aurait pas supporté de laisser tout le monde se faire du mouron pour elle. Ce n'est pas du tout son genre. En gros, Heather, c'est une jeune femme de 20 ans qui a un appart, un job, des amis et pas de gros problèmes à première vue. Le « à première vue » est très important dans cette phrase, hein, et c'est ça qui inquiète encore plus les enquêteurs et sa famille, qui continuent donc leurs recherches. Les recherches physiques n'ayant rien donné, les autorités décident de fouiller son appartement à la recherche d'indices sur une éventuelle piste. Mais là encore, rien ne ressort. Pas de signe de lutte, pas de message d'adieu, rien qui puisse orienter les recherches. Les enquêteurs se tournent vers les données téléphoniques d'Heather. Et là, enfin, ils ont quelque chose de concret. Grâce aux données, ils peuvent construire une chronologie précise du 17 décembre. Cet après-midi-là, Heather rend visite à ses parents. Elle semble heureuse et elle leur raconte qu'elle vient de décrocher un nouveau travail, le job de ses rêves, un poste de maquilleuse. Elle doit commencer un peu avant Noël. Elle raconte aussi que le soir même, elle a un rencard avec un certain Steven Chiraldi. C'est un gars qu'elle avait rencontré à l'école et avec qui elle a repris contact récemment. Elle semble tout à fait normale, joyeuse, pleine de projets d'avenir. Évidemment, les enquêteurs se tournent immédiatement vers Steven. Il a un rencard avec la jeune femme et quelques heures plus tard, elle a disparu de la surface de la Terre. Il a intérêt à avoir un sacré alibi, le bonhomme. Steven collabore d'emblée. Il raconte le rendez-vous dans le détail. Selon lui, tout s'est parfaitement bien passé. Ils sont allés manger, puis ils sont allés voir les décorations de Noël dans les quartiers résidentiels. Il lui a appris à conduire sa voiture manuelle. Il l'a même prise en photo pour qu'elle puisse se vanter auprès de sa famille. Elle était heureuse, souriante. Heather a semblé, elle aussi, avoir passé un bon moment. Ils ont même prévu de se revoir plus tard dans la semaine. Et à 1h15 du matin, il l'a déposée chez elle, saine et sauve, puis il est rentré directement chez lui, tout euphorique. Sa mère confirme l'heure du retour de son fils et ses données téléphoniques correspondent parfaitement à sa version. Steven a dit la vérité et il est rapidement écarté de la liste des suspects. Mais la suite de l'analyse des données téléphoniques étonne pas mal les enquêteurs. Normalement à 1h15, Heather aurait dû aller se coucher. Comme vous d'ailleurs, qui regardez cet HVF un peu tard. Demain va falloir assumer. Mais non, Heather, quelques minutes après être rentrée, reçoit un premier appel d'un numéro inconnu. L'appel semble durer quelques minutes et coupe. Et puis, un appel est émis du portable d'Heather cette fois-ci. Un appel vers le portable de Brianna, sa colocataire. Brianna n'est pas à l'appartement. Ce soir-là, sa famille vit dans un autre état et elle profite de la période de Noël pour les retrouver et passer un peu de temps avec eux. Mais les deux meilleurs amis restent en contact quotidien. Brianna est interrogée sur cet appel. Elle raconte que ce soir-là, elle sait qu'Heather a passé la soirée avec Steven. Quand son téléphone sonne, elle se dit que son ami veut peut-être lui raconter son date. Les petits moments croustillants, ou peut-être que quelque chose ne va pas. Elle décroche.
Allô, Heather, tout va bien ?
Mais Heather ne va pas bien. Elle fond en larmes.
Heather, parle-moi, qu'est-ce qui s'est passé, c'est Steven ?
Entre deux sanglots, Heather parvient à parler. Non, c'est pas Steven, leur rendez-vous s'est très bien passé, ils ont passé un super moment. Il l'a raccompagnée chez elle il y a une vingtaine de minutes. Mais alors qu'elle s'apprêtait à se coucher, elle a reçu un appel de son ex. Il lui a dit qu'il allait mal, qu'il voulait la voir. Elle sait pas quoi faire, elle se sent perdue. Brianna essaie de la consoler, mais elle est agacée. Elle pensait enfin qu'Heather était passée à autre chose, qu'elle avait oublié. Stockard. Visiblement, non.
Et pourquoi est-ce que tu lui as répondu ?
Heather raconte qu'il l'a appelé d'un numéro inconnu. Il a demandé à la voir ce soir. Il a besoin de lui parler. Mais Brianna est catégorique. Elle demande à son ami de ne pas y aller. Il est tard. Il vaut mieux qu'elle aille se coucher. La nuit porte conseil. Elles s'appelleront demain pour en rediscuter. Et peu à peu, Heather se calme. Elle sèche ses larmes. Brianna pense avoir convaincu son ami d'aller se coucher. Les deux jeunes femmes raccrochent. Malheureusement, les données téléphoniques d'Heather montrent qu'elle ne s'est pas couchée en raccrochant. Elle est ressortie de chez elle, probablement pour aller voir ses ex. Brianna donne un nom, Sydney Moorer. Et c'est marrant parce que c'est pas la première fois que les enquêteurs entendent ce nom. Il ressort dans les témoignages des collègues et des amis de Heather. Brianna a même donné le numéro de Sydney à Terry, le père, pour qu'il puisse le joindre dès le début des recherches. Mais quand le père de famille a interrogé l'ex-petite amie pour savoir s'il avait des informations sur la disparition d'Heather, il s'est fait recevoir. Sydney s'est mis à lui hurler dessus au téléphone. Il ne sait rien et ne veut plus jamais être contacté à ce sujet. Pour bien comprendre qui est Sydney, il faut remonter 6 mois en arrière, au début de l'été 2013. À ce moment-là, après environ 1 an de vie commune avec sa colocataire Brianna, Heather file le parfait bonheur. Ses études avancent bien, ses jobs lui plaisent, elle profite de sa jeunesse et de sa liberté. À 20 ans, elle a l'impression que tout est possible, que le monde lui appartient. Sa vie semble tracée, finir ses études, décrocher un super job de maquilleuse et qui sait, peut-être rencontrer l'amour. Mais elle le sait, elle a un goût douteux en matière d'homme. Elle le dit elle-même dans un tweet en mai.
Je choisis régulièrement des mecs qui ne me méritent pas.
Et malheureusement, ce tweet est presque prophétique puisque 1 mois plus tard, en juin, elle croise la route de Sydney. La rencontre a lieu au Tilted Kilt. Heather jongle entre les plateaux quand elle perd percute Sydney Moorer dans la cuisine du restaurant. Et allez savoir pourquoi, il tape dans l'œil de la jolie jeune femme. Il a 37 ans, il est père de 3 enfants, il a sa petite entreprise Palmetto Maintenance, spécialisée dans la soudure mobile. Il travaille lui aussi au Tilted Kilt, alors il se balade pas en mini-short et décolleté comme on le demande aux serveuses. Non, lui, il fait de la maintenance sur les équipements de cuisine. Pas exactement le prince charmant qu'on imagine pour une fille de 20 ans, mais le coup de foudre est immédiat. Heather craque complètement pour lui et elle ne s'en cache pas du tout. Elle tweete même, attention c'est explicite,
le mec qui répare les trucs à mon boulot me fait mouiller.
Ou encore, attention c'est encore explicite,
un de ces jours je vais traîner cet homme dans le placard à balai et faire ce que je veux de lui.
Alors c'est pas subtil, mais c'est juste les posts pleins d'insolence d'une jeune femme de 20 ans pour se donner un genre sur les réseaux sociaux. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut et elle annonce très clairement ses intentions. Mais si un jour un de vos collègues tweet qu'il veut vous enfermer dans le placard et faire ce qu'il veut de vous, faut donner l'alerte. De son côté, ce vieux bedonnant de Sydney est plus que flatté de plaire à Heather et il a bien remarqué comment elle le regarde. Il commence à débarquer au restaurant plus souvent que nécessaire, parfois même pendant ses jours de congé, et peu à peu la conversation s'engage. Il se donne rendez-vous après le service, discute, se plaise. Il l'attend dans sa voiture derrière le restaurant quand elle finit son service. Il a beau avoir 37 ans, il se comporte comme un ado boutonneux et pris de sa première copine. Il est tout émoustillé à l'idée de cette aventure excitante avec une jeune femme qui lui voue une admiration sans borne. Il communique en permanence par téléphone et il se retrouve dans des endroits isolés pour leurs ébats. Les collègues les voient rigoler et discuter dans la cuisine et très vite, les rumeurs commencent à circuler. Heather s'en fout. Pour elle, c'est le grand amour. Sauf qu'il y a un léger détail que Sydney a oublié de mentionner à Heather, un détail pas si anodin que ça, Sydney est marié. Il n'est pas que père de 3 enfants, il est encore marié à la mère de ses enfants justement. Et non, le scénario que vous êtes en train d'imaginer n'est pas celui de cet HVF, vous allez voir, c'est bien pire que ça. Sa femme, elle s'appelle Tammy, elle a 34 ans, elle travaille dans une agence de voyage et toute la petite famille vit même sur la propriété du père de Tammy. Ils sont mariés depuis 20 ans. Et un beau jour, les collègues confient à Heather que son prince charmant, il est déjà pris. Ils l'ont vu traîner avec sa femme en ville, la parfaite petite famille avec son alliance qu'il prend bien soin de retirer à chaque fois qu'il vient voir Heather à l'arrière du restaurant. Mais Sydney est malin. Le jour où Heather le confronte, il lui explique que oui, il est marié, c'est vrai, il aurait pu lui dire, mais en fait, ça change rien puisqu'il est dans un mariage ouvert avec sa femme. Chacun peut avoir des aventures de son côté sans que ça ne pose de problème. Et puis, de toute façon, ça va pas fort avec sa femme, il pense la quitter hein, bientôt, d'autant plus qu'il est tombé amoureux d'Heather. Faut juste qu'il trouve le bon moment, qu'il règle quelques détails avec les enfants. Voilà, c'est les bonnes vieilles excuses, et Heather, jeune et naïve, y croit. Les amis et les collègues d'Heather, eux, ne sont pas dupes. Ils tentent de la mettre en garde, ce mec marié est en train de l'amener en bateau, ils sont crus avec elle.
Réveille-toi, Heather, il fait juste ça pour coucher avec toi à l'arrière de sa voiture avant de rentrer tranquillement chez lui le soir. Tu crois qu'il va quitter sa femme et sa maison pour une gamine de 20 ans ?
Les collègues tentent même de provoquer leur séparation. Elles passent des appels anonymes sur le portable d'Heather et au restaurant en se faisant passer pour la femme de Sydney. Mais ça ne prend pas. Et pendant des mois, Sydney continue son petit jeu. Il entretient l'illusion, il fait croire à Heather qu'elle est spéciale pour lui, qu'ils ont un avenir ensemble. Et comble de sa perversion, il lui propose même de devenir la nounou de ses enfants. Alors heureusement, ça va pas se faire, Heather n'a pas le temps et elle est mieux payée en tant que serveuse. Et vu la cinglée qu'est Tammy, la femme de Sydney, vaut mieux pas aller là-bas. Mais là, je vais un peu vite. Bon, ça fait maintenant 3 mois que Heather et Sydney vivent leur petite histoire d'amour clandestine. Des mois qu'Heather s'accroche aux promesses de Sydney qu'un jour ils pourraient être ensemble au grand jour. Mais la vérité finit toujours par éclater. Et le 2 novembre 2013, Tammy, la femme trompée, découvre la seconde vie de son mari en fouillant dans son téléphone. Et contrairement à ce que Sydney racontait, elle n'est absolument pas d'accord avec cette situation. Elle est même furieuse. Hors d'elle, il est hors de question que cette histoire continue. Ni une ni deux, elle trouve le numéro d'Heather et elle lui envoie un message terrifiant.
Salut ma chérie, prête à rencontrer madame ?
Et sans attendre, elle l'appelle. Heather voit un numéro inconnu s'afficher et elle répond. Immédiatement, Tammy la traite de tous les noms, lui hurle dessus et lui ordonne d'arrêter immédiatement de fréquenter son mari. Puis, Tammy passe le téléphone à Sydney, qui était juste à côté d'elle. Il a été briefé, il sait ce qu'il a à faire pour sauver son mariage. Tammy s'assoit à côté de Sydney pendant qu'il parle à Heather. Elle est aux premières loges. Et là, c'est un véritable massacre psychologique qui se joue. Sydney, sous la supervision de sa femme, démonte Heather complètement.
« Mais t'étais rien pour moi, t'étais juste quelqu'un qui écartait les jambes. »
Il la détruit, lui fait comprendre qu'elle n'a été qu'un plan cul sans importance, que leurs 3 mois ensemble ne valent rien. Vous imaginez à 20 ans se faire humilier de cette façon par l'homme qu'on aime et sa femme. Heather sort de cet appel à genoux, elle tombe dans les bras de sa coloc, Brianna. Elle pleure pendant des heures et des heures, se sent humiliée. L'homme qu'elle aimait vient de l'exploser en plein vol. Mais malheureusement pour Heather, l'histoire ne s'arrête pas là, parce que Tammy, la femme de Sydney, n'en a pas fini avec elle. Tammy commence un véritable harcèlement. Elle se met à appeler Heather sans arrêt. Elle exige qu'Heather change d'identité, qu'elle vienne la rencontrer en vrai. Elle prétend même que les enfants veulent la rencontrer pour qu'elle s'excuse devant eux d'avoir brisé le couple de papa et maman. De son côté, Heather essaie tant bien que mal de calmer les choses. Elle répond à Tammy.
Je pense que t'es un peu obsédé par moi. Je suis plus quelqu'un dont tu dois t'inquiéter.
Mais Tammy ne compte pas du tout se calmer. Elle continue d'appeler Heather sur son portable pour lui mettre la pression. Elle est capable de l'appeler sans arrêt pendant des heures et des heures et des heures. Puis elle tente d'appeler depuis le téléphone de Sydney. Mais Heather ne répond pas. Elle veut se faire oublier. Elle est mortifiée de honte. Elle ne veut plus rien avoir avec ce couple horrible. Alors Tammy se met à appeler régulièrement au restaurant. Elle demande à parler au patron pour essayer de la faire virer. Résultat, Heather perd des heures de travail tellement les appels deviennent insupportables. Son patron lui demande de prendre du repos forcé le temps que la situation se tasse. Mais ce n'est toujours pas fini. Tammy se met à envoyer des photos d'elle et Sydney au lit ensemble, des vidéos d'eux s'embrassant, ou plus encore, histoire de bien lui faire comprendre qu'il lui appartient. Tammy, depuis qu'elle a appris que Sydney l'avait trompée avec une jeune femme de 20 ans, est devenue complètement folle de rage. Elle se sent humiliée et si on n'était pas sur YouTube, je vous aurais même dit qu'elle est complètement tarée. Et comme Heather ne répond pas, elle trouve le moyen d'alimenter sa rage toute seule. Elle se lance dans une véritable traque. Elle surveille tous les faits et gestes de la jeune femme. Elle la traque en permanence sur le parking du boulot, en bas de chez elle, lors de ses sorties. Mais il n'y a pas que sur Heather que Tammy met la pression. Du moment où elle découvre l'aventure de son mari, elle instaure une surveillance totale à Sydney. Elle lui confisque son téléphone comme un ado, change son code d'accès pour être sûr qu'il ne puisse pas l'utiliser dans son dos. Elle l'accompagne partout où il va. Elle lui dit où et quand il est autorisé à travailler. Elle surveille ses moindres faits et gestes. Chaque nuit, elle l'attache au lit avec des menottes pour être sûr qu'il ne va pas retrouver sa maîtresse en douce. Elle lui répète sans cesse
« Si t'avais pas eu cette histoire avec cette fille, ça n'arriverait pas !»
Et préparez-vous pour la suite, elle l'oblige à se faire tatouer son prénom, Tammy, au-dessus de son... Enfin, au-dessus de son attirail, hein. Un type de 37 ans, père de 3 enfants, obligé de se faire tatouer le prénom de sa femme au-dessus de ses parties. On touche le fond du seau et on va même finir par le percer, vous allez voir. Et puis, pour continuer l'humiliation, Tammy télécharge des applis de rencontre sur le téléphone de Sydney et envoie des photos d'elle nue à un autre homme en montrant bien à son mari ce qu'elle fait. Bref, Sydney a perdu toute dignité, mais au lieu de se rebeller, au lieu de partir, il accepte tout. Il y a comme un jeu malsain de domination et d'humiliation entre eux. Un jeu de séduction, un jeu sexuel dans lequel Heather, malgré elle, est devenue un pion. Mais... pourquoi cette rage? On comprend qu'une tromperie fasse mal, que ça détruise une famille. Mais pourquoi Tammy s'acharne-t-elle sur Heather alors que c'est Sydney, son mari, qui a tout initié et qu'Heather a à peine 20 ans? C'est lui qui a menti sur son mariage soi-disant ouvert. C'est lui qui lui a fait des promesses qu'il n'avait aucune intention de tenir. En analysant un peu la dynamique du couple, on ne peut que se rendre à l'évidence. Il existe entre eux un lien pervers, une forme de fétichisme malsain. Sydney s'ennuie dans son couple. Tammy et lui sont installés, leur vie est plan-plan. Dès le départ, il voit en Heather un moyen de nourrir son ego. Mais il n'a jamais eu l'intention l'intention de quitter Tammy. Pour lui, Heather était juste un jouet, un moyen de se sentir puissant et désiré. Quand Tammy apprend l'aventure, elle vient elle-même nourrir cet ego narcissique. Son obsession, sa surveillance constante et sa rage viennent valider le sentiment d'importance de Sydney. Il se sent à nouveau au centre de l'attention et c'est pour ça qu'il se plie au contrôle de Tammy. C'est comme s'ils vivaient tous les deux dans leur propre réalité. Dans ce fantasme, il est un homme irrésistible et Tammy doit chasser les groupies qui l'entourent. Concernant Tammy, son identité semble construite autour de Sydney. Il est son mari, sa chose. Sans lui, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'elle ne le quitte pas en apprenant qu'il l'a trompée. Mais elle n'est pas une victime passive de son destin. Aussi malsain que ça puisse sembler, elle compte rester avec lui et lui faire payer son adultère. Elle compte l'humilier comme il l'a humiliée, comme si elle tirait du plaisir de le voir ramper à ses pieds après avoir fauté. Ces deux-là partagent un jeu d'ego, de domination et de contrôle qui emporte tout sur son passage. Ils romantisent leur pathétique mariage et dans leur désillusion totale, Heather devient un moyen de vivre leur passion au maximum en allant toujours plus loin. Sauf que Sydney va beaucoup trop jouer avec cette situation et surtout, il va très mal calculer la dangerosité de Tammy qui est prête à tout pour ne pas perdre son mari. L'ultime rendez-vous. Malgré la surveillance de Tammy, Sydney parvient à recontacter Heather. Il lui sort une nouvelle version des faits. En fait, Tammy ne s'oppose pas à leur relation en soi. Elle est juste fâchée qu'il ait menti et qu'il lui ait caché la relation. Ils sont bien en couple libre. D'ailleurs, Tammy a elle aussi une aventure de son côté. Bref, il essaie de renouer le contact. Mais cette fois, Heather ne mord pas à l'hameçon. Elle lui fait comprendre que c'est fini entre eux, définitivement fini. Elle ne veut plus entendre parler de lui ni de sa femme d'ailleurs. Elle ne veut plus être dérangée sur son portable ou au travail. Elle veut juste qu'il la laisse tranquille, qu'il l'oublie. Elle en a assez de vivre dans la peur à chaque fois qu'elle est seule, chez elle ou à l'extérieur. Elle est terrifiée à l'idée que Tammy la suive, qu'elle soit là, tapie dans l'ombre, à attendre le moment opportun pour lui bondir dessus. Elle veut tourner la page et aller de l'avant. C'est à ce moment qu'elle trouve son boulot de maquilleuse. Une nouvelle vie l'attend, loin du Tilted Kilt, loin de Sydney, loin de Tammy et de leur folie. Un nouveau départ qui sera pourtant le dernier chapitre de sa courte vie. À la mi-novembre, nos tarés du jour décident de prendre des vacances en famille. Ils achètent une nouvelle voiture et ils partent en voyage, un road trip de 3 semaines en Californie avec leurs 3 enfants dans leur tout nouveau pick-up. 3 semaines de répit pour Heather. Enfin, sa vie reprend son cours normal. Mais Tammy n'est pas calmée, loin de là. Et en son absence, elle demande à sa sœur Ashley de suivre Heather pour elle et de lui rapporter ses faits et gestes. Et comme Ashley est au moins aussi cinglée que sa sœur, elle accepte, pas de problème, je vais la surveiller moi la gamine. C'est une demande tout à fait raisonnable. Mais même loin de Myrtle Beach, les tensions dans le couple restent palpables. Et puis, Sydney a une confession à faire à sa femme. Il sait que ça va pas beaucoup lui plaire, mais des rumeurs circulent et les nouvelles vont vite. Heather aurait pris du poids, elle porte un uniforme très ajusté pour son travail et ses collègues disent qu'elle a dû le faire échanger pour la taille au-dessus parce qu'elle ne rentrait plus dedans. 2 fois déjà. Il n'ose pas trop lui dire, mais il peut confirmer qu'elle a visiblement pris la poitrine. Ses collègues racontent aussi qu'elle aurait fait un test de grossesse au boulot. A priori, le résultat n'était pas concluant, mais bon, quand on fait un test, c'est qu'on a un doute. Heather pourrait être enceinte. La réaction normale que devrait avoir Tammy à ce moment-là, ce serait de demander le divorce, de demander la garde des enfants, une pension alimentaire, et voilà, on passe à autre chose. Mais vous l'avez compris, Tammy, c'est pas vraiment quelqu'un qui a des réactions normales. Quand elle apprend la nouvelle, Tammy explose de rage. Elle pète les plombs plus encore que ce qu'elle nous avait déjà pété auparavant. L'idée que sa rivale porte l'enfant de son mari est tout simplement intolérable. Elle est remplie de rage en pensant à cette fille qui fait la moitié de son âge, la moitié de son poids, qui selon les standards de beauté est bien plus jolie qu'elle avec son apparence usée et fatiguée. À 34 ans, mère de 3 enfants, Tammy voit dans cette gamine de 20 ans un miroir déformant de sa propre jeunesse perdue. Elle enrage. Si cette petite traînée porte l'enfant de son mari, si elle décide de le garder, alors il y aura toujours ce lien, cet enfant qui rappellera à tout le monde que Sydney l'a trompé. Pire, Sydney devra rester en contact avec Heather et pour elle, c'est
inacceptable.
Et une idée commence à germer dans le cerveau malsain de Tammy. Un plan radical pour régler définitivement son problème et se venger de cette situation détestable dans laquelle elle se retrouve. Ce plan commence par la vérification d'une information cruciale. Est-ce que Heather attend vraiment le bébé de Sydney? Et si oui, il faudra punir les deux. Sydney devra se débarrasser d'Heather et de son rejeton. Il devra régler le problème qu'il a causé. Il pourra alors lui prouver son amour et leur mariage sera sauvé. Quand elle fait part de son plan macabre à Sydney, il ne dit rien. Ni oui, ni non, il est pris une nouvelle fois à se plier au désir de sa femme. Dans leur réalité qu'ils se sont inventée, se débarrasser d'Heather, c'est le seul moyen de remettre de l'ordre. À la fin de leurs 3 semaines de vacances, les contours de leur fantasme morbide sont définis. Sur autorisation de Tammy, Sydney aurait le droit de contacter Heather une dernière fois. Il lui ferait croire que son mariage est fini, qu'il veut retrouver sa maîtresse. Alors, elle tombera dans le piège. Elle le retrouvera, et là, il pourra lui faire un test de grossesse pour vérifier si les rumeurs disent vrai. Et si oui, alors les portes de l'enfer s'ouvriront pour elle. Début décembre, les mourreurs rentrent de Californie et les communications reprennent de plus belle. Tammy se remet à appeler Heather et à lui envoyer des messages. Elle se met même à poster des commentaires désobligeants, insultant même sur les réseaux sociaux. Le harcèlement reprend plus violent que jamais. Tammy se remet à suivre Heather dès le lendemain de leur retour de voyage. Pas une seconde à perdre. Elle prend des photos, des notes, des coordonnées, des horaires. Le plan est en marche. Il ne reste plus qu'à définir une date. Tilted-kilt, Sydney apprend que Brianna part dans sa famille à partir du 16 décembre. Heather sera donc seule chez elle cette semaine-là. C'est à ce moment-là qu'il faudra agir. Le 17 décembre, Heather a rendez-vous avec Steven Chiraldi. Un nouveau départ, une nouvelle histoire qui commence. Ils se retrouvent vers 22h et font le tour de Myrtle Beach pour admirer les illuminations de Noël. Puis, direction le parking d'un centre commercial où Steven apprend à Heather à conduire sa voiture manuelle. Heather est aux anges, elle envoie des photos à son père et à Brianna avec la légende
« Je viens d'apprendre à conduire une manuelle, je suis une pro ».
Un moment de bonheur simple, innocent, la vie normale d'une fille de 20 ans qui découvre l'amour et la liberté. Steven la raccompagne chez elle vers 1h15 du matin le 18 décembre comme on le sait. Il se donne rendez-vous pour un second date, Heather rentre dans son appartement, le sourire aux lèvres. Sa nouvelle vie commence enfin. C'est sans compter sur Sydney et Tammy qui décident de mettre leur plan à exécution. C'est le moment. Le couple passe la soirée au Long Bird, un bar pas loin de chez Heather. Ils y arrivent vers 23h et restent jusqu'à environ 1h, planifiant leur coup. Vers 1h12, Sydney se rend au Walmart de Myrtle Beach. Il achète des cigarettes et un test de grossesse. Pendant ce temps, Tammy rentre chez eux. Après tout, c'est la bêtise de Sydney. C'est normal que ce soit lui qui fasse le gros du travail. Sydney se rend comme prévu dans une station-service. Il se gare et rejoint à pied la cabine téléphonique. À 1h35, le portable de Heather sonne. Numéro inconnu. Qui ça peut bien être à cette heure-ci et probablement une urgence. Elle décroche et elle entend un
« Allô ?»
Elle reconnaît tout de suite sa voix.
Sydney ? Oui, c'est moi, je regrette tout ce qui s'est passé. J'ai quitté ma femme et j'ai besoin de te voir. Ça va pas du tout, j'ai besoin de te parler. Retrouve-moi sur le parking du restaurant Long Bird, je t'y attends.
Sydney joue la carte de l'émotion, il sait exactement quoi dire pour toucher Heather. Il connaît ses faiblesses, ses espoirs. Il sait qu'au fond d'elle, malgré l'humiliation, malgré la douleur, elle espère encore qu'il était sincère quand il lui disait qu'il tenait à elle. La conversation dure 5 minutes. 5 minutes pendant lesquelles Sydney manipule Heather, lui fait miroiter l'avenir dont elle rêvait, puis il raccroche. Heather, après l'appel, téléphone immédiatement à sa coloc Brianna. Elle est en pleurs, bouleversée par la discussion qu'elle vient d'avoir avec Sydney. Elle répète tout ce qu'il lui a dit et Brianna lui conseille de ne pas le retrouver si tard. Elle pense l'avoir convaincu, Brianna lui souhaite une bonne nuit avant de raccrocher, mais elle a totalement sous-estimé le pouvoir de manipulation de Sydney et l'emprise qu'il a encore sur Heather. Et Heather ne va pas se coucher. Heather décide de prendre une douche pour essayer de retrouver ses esprits et d'y voir plus clair. Elle se dénude dans la salle de bain. Seule face à son miroir, elle regarde son ventre qui commence à s'arrondir. Et si Sydney voulait lui demander de se remettre ensemble? Et si effectivement ils avaient un avenir? Son bébé pourrait grandir avec un papa, ils pourraient construire ensemble une famille. Loin de Tammy, ils pourraient être heureux. Après sa douche, Heather se rhabille et ses pensées se bousculent toujours dans dans sa tête. Elle jette son portable et ses clés dans son sac à main, elle attrape sa veste, elle claque la porte de son appartement. À 2h45, elle arrive sur le parking du restaurant. Elle est nerveuse, pleine d'espoir, la discussion va pas être hyper facile. Arrivée sur le parking, Heather ne voit pas Sydney. Elle tente de l'appeler plusieurs fois, mais il ne répond pas. Elle tourne dans le coin pour essayer de le trouver, mais aucune réponse. Est-ce qu'à ce moment-là, Sydney hésite? En tout cas, il finit quand même par arriver au point de rendez-vous. Heather aperçoit la voiture de Sydney là, au bout du parking. Il a choisi le meilleur endroit pour avoir de l'intimité à l'écart et mal éclairé. Elle se gare à côté de lui et elle descend de sa voiture pour le retrouver. Heather l'ignore complètement, mais le plan macabre est déjà en marche. Elle s'approche de la voiture de Sydney, il est assis, seul au volant. Il lui sourit et lui fait signe de monter avec lui. Et pendant les minutes qui suivent, il joue le jeu de l'amour. Est pris. Son rôle est bien défini, il doit la mettre en confiance. Il ne veut pas lui faire peur, pas tout de suite. Et puis, sait-on jamais, peut-être qu'il peut y gagner quelques faveurs une dernière fois avant de se dire adieu. Il dit à Heather qu'ils ne peuvent pas rester là, il a peur que Tammy débarque, mais il connaît un endroit où ils seront en paix, à 6 km de là, un cul-de-sac, il y aura personne, ils auront tout l'intimité du monde. Le trajet n'est censé durer que 4 minutes. Mais d'un coup, sans filtre, Heather avoue tout. Elle dit qu'elle est enceinte, que c'est de lui, qu'elle a déjà fait un test. Sydney lui demande s'il est sûr que c'est bien de lui. Oui, elle en est certaine, elle n'a couché avec personne d'autre. À ce moment précis, Heather sent bien que l'ambiance a changé. Sydney est froid, il ne semble pas du tout heureux quand elle lui donne le test. Il le regarde rapidement, il est bien positif. Puis, il le met dans sa poche. Le plan débute. Le mari infidèle sait ce qu'il a à faire. En cas de test positif, Tammy l'attend près de l'embarcadère à Peachtree Landing au milieu de nulle part. Sans un mot, il accélère.
Mais tu fais quoi? On va où?
Sydney conduit pendant environ 10 minutes dans un silence de plomb. L'angoisse des heures monte. Elle essaie de discuter, mais elle est face à un mur. Bientôt, les lumières de la ville disparaissent et ils atteignent la forêt. Elle ne connaît pas cet endroit.
Sydney, qu'est-ce qui se passe? Parle-moi!
Mais il reste terré dans son silence. Il se gare au bord de la rivière. Où est Tammy? Ils se sont pourtant donné rendez-vous ici. Elle est pénible à pas pouvoir suivre un plan comme tout le monde. Elle devait rentrer à la maison voir si les enfants allaient bien, puis venir à Peachtree Landing en cas de besoin. Bon, elle doit être en chemin. Son téléphone est sur messagerie. Effectivement, Tammy est en route. Le pick-up est filmé en direction de Peachtree Landing par une caméra de surveillance dans le voisinage. Elle a éteint son téléphone. Sydney tente un dernier appel, rien. Mais au loin, il aperçoit des phares. C'est bon, Tammy est là. Sydney sort de la voiture et se dirige vers le côté passager. Il ouvre la portière et il saisit Heather par le bras et la tire en dehors de la voiture. Elle s'étale au sol et elle se met à pleurer, transie de peur. Sydney commence alors à la ligoter, lui bloque les membres pour être sûr qu'elle ne puisse pas s'enfuir. Heather tente de se défendre, mais Sydney fait 3 fois son poids et 2 fois sa taille. Le pick-up qui vient d'arriver ne s'est pas garé loin d'eux. Heather ne reconnaît pas cette voiture, elle distingue la silhouette du conducteur, mais impossible de savoir de qui il s'agit dans le noir. Quand soudain, le conducteur ouvre sa portière. Les lumières de l'habitacle s'allume, un frisson glacial parcourt Heather quand elle reconnaît Tammy. Elle comprend qu'elle est tombée dans un guet-apens, elle supplie mais rien n'y fait. Sydney l'attrape par le bras et commence à la traîner vers le pick-up. Tammy en sort. Triomphante, elle sait exactement ce qu'il va se passer et elle en jubile d'avance. Elle va enfin obtenir la réparation dont elle rêve depuis des mois. Elle s'approche de la portière arrière de sa voiture et elle l'ouvre. À ce moment, Sydney jette la jeune femme sur la banquette et Tammy s'engouffre derrière elle. Sydney s'installe au volant et il démarre sans attendre, direction la maison. Comme prévu, le trajet dure une 10 minutes. 10 minutes pendant lesquelles Tammy laisse libre cours à sa rage. Elle insulte, elle l'humilie, les yeux brillants de haine.
Alors comme ça, tu croyais qu'il allait me quitter pour toi? Tu croyais vraiment qu'il t'aimait, imbécile?
Elle frappe Heather autant qu'elle le peut. Heather tente d'éviter les coups, mais elle ne peut pas faire grand-chose avec ses mains et ses pieds contraints par les liens. Depuis le rétroviseur, Sydney ne perd pas une miette de ce spectacle. En arrivant chez eux, Sydney gare le pick-up sur le terrain du père de Tammy. L'endroit est isolé, entouré d'arbres. d'arbres et de broussailles. Personne ne pourra les voir, personne ne pourra les entendre. Il ouvre la portière arrière et il tire Heather dehors sans ménagement. Elle tombe lourdement sur la terre humide, ses genoux heurtent les cailloux. Tammy sort à son tour de la voiture, elle s'approche d'Heather et lui donne un coup de pied dans les côtes. Elle se penche vers elle, le visage déformé par la rage.
Tu croyais vraiment qu'il allait m'abandonner pour toi? Mais tu te prends pour qui?
Elle lui assène une gifle violente, puis une autre. Heather tente de se protéger avec ses mains liées, mais Tammy continue de la frapper.
Regarde-moi quand je te parle!
Sydney regarde la scène, fasciné par la violence de sa femme, excité par ce spectacle de jalousie. Tammy se tourne vers lui, exaspérée par sa passivité. Elle vocifère.
Sydney, tu vas enfin agir comme un homme, ou tu vas rester planté là comme un imbécile. Frappe-la!
Sydney regarde Heather, recroquevillée sur le sol, les larmes coulant sur ses joues. Pendant une seconde, on pourrait croire qu'il va refuser, mais sous le regard impérieux de Tammy, il lève la main et gifle Heather violemment.
Plus fort!
Ordonne Tammy. Sydney frappe à nouveau, cette fois avec le poing. Heather s'effondre, complètement sonnée par le coup. Tammy observe la scène avec satisfaction, puis soudain, elle tend quelque chose à Sydney. Un pistolet.
Allez, finis-la.
Sydney prend l'arme, Heather lève vers lui des yeux terrifiés, suppliants. Elle tente de parler, mais seuls des sons étouffés sortent de sa bouche. Sydney pointe l'arme vers la jeune femme qui secoue la tête désespérément, essayant de reculer malgré ses liens. Mais c'est trop tard, le plan a été trop loin. Un coup de feu déchire le silence de la nuit. Heather, 20 ans, la vie devant elle, enceinte, s'effondre définitivement. Son regard se fige dans le vide. Sydney ramasse la douille, le couple soulève le corps d'Heather pour l'envelopper soigneusement et éviter ainsi que le sang ne tache leur véhicule. Ils la chargent à l'arrière du pick-up. La prochaine et dernière étape de leur plan, c'est de se débarrasser du corps. Là où ils sont, au milieu de nulle part, ils ont plusieurs choix. Soit ils décident d'enterrer Heather en pleine forêt, la nature fera le reste pour la faire disparaître le plus vite possible, ou bien, choix plus macabre et plus rapide certainement, ils décident de donner Heather aux alligators du coin qui en quelques minutes emportent le corps dans les eaux marécageuses. Il existe également une théorie disant qu'après le meurtre d'Heather, paniquée, Tammy demande de l'aide à son père qui vit donc également sur la propriété. Celui-ci aurait pu par la suite emporter Heather avec Sydney pour la cacher en forêt et aider le couple à s'en sortir. La théorie est soutenue par le fait qu'après la disparition d'Heather, le père de Tammy a arrêté de prendre ses médicaments pour le cœur, se laissant mourir. Et si je vous dis pas avec précision ce qu'ils font du corps d'Heather après sa mort, c'est pour une bonne raison, vous allez voir. Mais alors, comment la voiture d'Heather se retrouve à Peachtree Landing? Difficile de le savoir, de mon point de vue, et c'est pour ça que je l'ai pas dit dans le scénario, ça c'est une interprétation purement personnelle, mais j'ai du mal à croire qu'Heather soit allée d'elle-même dans un endroit aussi paumé avec sa propre voiture. On est quand même en plein hiver, en pleine nuit, Peachtree Landing, c'est ultra glauque à cette période. Le plus simple, c'est qu'Heather a rejoint Sydney sur le parking du restaurant avec son véhicule, puis elle a dû monter avec lui et il l'a emmené à Peachtree Landing, là où devait se dérouler le plan à l'abri des regards. Et il a ensuite été rejoint par Tammy. C'est là que le piège se referme. Tammy voulait être là pour suivre le déroulé des opérations et déchaîner sa haine. Si Sydney vient ensuite garer la voiture d'Heather au beau milieu de Peachtree Landing, c'est peut-être pour faire croire qu'elle a pu se jeter à l'eau, faire une fugue ou une mauvaise rencontre. Heureusement, ça ne prendra pas auprès des enquêteurs. Je pense que la plus grosse erreur du couple a été pour une quelconque raison de placer le véhicule d'Heather près de l'embarcadère, puisque vu que la zone est paumée, ils ne s'attendaient pas à ce que leur pick-up soit filmé par une caméra du voisinage en train de se rendre sur place cette nuit-là. La seule certitude que l'on a, c'est que dès le lendemain de la disparition d'Heather, le couple se comporte comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. Et ils redeviennent les ordures qu'ils sont, puisque même disparus, même mortes, ils ne vont pas laisser Heather ni sa famille tranquille. Un couple pervers. Évidemment, après avoir été mis au courant de la relation extra-conjugale, il ne faut pas longtemps aux enquêteurs avant de tomber sur Sidney. Il est rapidement convoqué au commissariat pour être interrogé. Et là, il commence son petit numéro de manipulation. C'est pas l'écureuil qui trouve le plus de noisettes, mais il sait comment se montrer convaincant. Il sait que sans corps, les autorités n'ont pas grand-chose contre Tammy et lui. Et visiblement, il semble confiant sur ce point. Le corps d'Heather ne risque pas d'être retrouvé. Alors il raconte... Oui, il connaît Heather, oui, il a eu une relation avec la jeune femme, mais c'est du passé tout ça, il a rompu, il est rentré dans le droit chemin, c'est fini maintenant. Et quand il est interrogé sur la nuit du 17 au 18 décembre, il raconte qu'il était avec Tammy toute la soirée, ils sont allés au bar, ils sont ensuite passés chez Walmart et puis ils sont rentrés à 3h10 du matin. Il nie catégoriquement avoir passé des coups de fil depuis la cabine téléphonique, il en rit même, ça existe encore ces trucs-là, mais les enquêteurs ont bien fait leur devoir. Il lui montre les images de vidéosurveillance, cet homme qui lui ressemble beaucoup en plein coup de fil depuis la cabine de la station, la même cabine depuis laquelle Heather a reçu son tout dernier appel entrant. Coincé, il change alors de version. Ah oui, alors il a appelé Heather, mais c'était pour lui dire de le laisser tranquille parce qu'elle n'arrêtait pas de lui laisser des mots sur sa voiture, elle veut trop son corps. Il a utilisé la cabine pour que sa femme ne sache pas qu'il l'a contacté, comme il avait interdiction de le faire. Alors quoi, Heather aurait été si détruite par cette demande de cesser tout contact qu'elle aurait disparu. Mais pas de chance, Brianna a déjà parlé. Elle a raconté son appel avec Heather cette nuit-là, le rendez-vous que lui a donné Sidney. Et puis, ce passage au Walmart, parlons-en. Les caméras de surveillance du Walmart confirment effectivement qu'il y est passé. Il a acheté un test de grossesse pour sa femme qui pense être enceinte. Quel beau cadeau de la vie, n'est-ce pas? Mais pourquoi un couple marié depuis 20 ans aurait besoin de ce test en pleine nuit? Pourquoi cette urgence? Pourquoi ne pas attendre le lendemain tranquillement? Et est-ce qu'il peut expliquer pourquoi sa voiture est filmée sur la route de Peachtree Landing? Alors là, ça doit être une autre voiture. Quelqu'un a bien un pick-up similaire dans les environs. Lui, il y était pas, c'est sûr. Si vous me croyez pas, demandez à Tammy. Tammy est convoquée à son tour et elle raconte la même chose. Quelle surprise, elle va même plus loin. Elle prétend qu'elle n'a jamais eu le moindre problème vis-à-vis des heures. Sidney et elle sont bien dans un mariage ouvert, elle n'est pas fâchée du tout, elle aussi a quelqu'un de son côté. Bon là, il abuse, hein. Il nous prend vraiment pour des lapins de 3 semaines. Mais son explication ne passe pas, son obsession pour Heather est largement établie. Les messages, les appels incessants, le harcèlement au travail, tout a déjà été rapporté par les témoins et les données téléphoniques soutiennent ces témoignages. Les téléphones de Sidney et Tammy semblent traquer Heather en permanence les semaines précédant sa disparition. D'ailleurs, les données dévoilent quelque chose de troublant. Un peu après 3h du matin dans la nuit du 17 au 18 décembre, les portes Les portables de Sidney et Tammy sont éteints. En même temps, quelle coïncidence, comme s'ils ne voulaient pas que l'on sache où ils sont précisément. Et puis, vers 4h30 avant que le jour ne se lève, une heure après la disparition totale des heures de la surface de la Terre, Sidney récupère son téléphone et pour la première fois en 6 semaines, il se remet à échanger des messages avec Tammy. Tammy lui envoie une liste de courses, jus d'orange et ravioli. Et Sidney répond « Oui, madame ». Comme pour simuler une normalité. Le 20 décembre, les enquêteurs organisent une visite surprise chez le couple. Ils n'ont pas de mandat de perquisition, mais veulent juste mettre un petit coup de pression. Ils remarquent alors immédiatement un système de sécurité vidéo qui filme la propriété. Ce pourra être utile. Ils demandent tout de suite à examiner le pick-up, mais comme c'est dommage, Tammy ne trouve pas les clés. C'est bête, hein, sinon il n'y avait pas de souci. Elle leur aurait montré avec plaisir. Dans le garage, les agents remarquent un petit tas de bric-à-brac, un drôle d'assortiment d'objets, un sac de ciment, une douille et de la javel. Que des choses qu'on peut retrouver dans un garage sans souci, mais ensemble et dans le contexte d'une disparition mystérieuse, ça fait tâche. Un mandat de perquisition est demandé. Quelques jours après leur première visite, les enquêteurs reviennent chez le couple. Et la surprise, un nouveau système de sécurité vidéo a été installé. L'ancien a été bazardé, emportant avec lui
toutes les images de la nuit de la disparition. Tammy explique simplement que l'ancien système était cassé, donc ils l'ont mis à la benne en détruisant également le disque dur qui, de toute façon, n'enregistrait plus, bien évidemment. Heureusement, le nouveau système capture quand même un balai fascinant. Le 22 décembre, soit 2 jours après la première visite de la police, Tammy, Sydney, Ashley, la sœur de Tammy et son copain, passent des heures et des heures à nettoyer le pick-up. L'intérieur, l'extérieur, tout est nettoyé méticuleusement avec une attention particulière accordée au siège passager arrière. 4 personnes pendant des heures à astiquer une voiture toute neuve. Ce même pick-up que les enquêteurs n'ont pas pu approcher lors de leur première visite sans mandat. Après cette longue session de nettoyage, Sydney allume un feu dans le jardin et y brûle tout le matériel. Tous les chiffons, tous les éponges qui ont servi à nettoyer la voiture. Et après ce petit feu de joie, Tammy est filmée en train de fouiller son jardin. Elle passe au crible chaque centimètres carrés et revient même avec un miroir pour vérifier qu'ils n'ont rien laissé. Est-ce qu'elle cherchait un objet métallique, une douille, un bijou ayant pu appartenir à Heather? Les enquêteurs cherchent aussi à obtenir les données Google de Sydney, parce que autant les données de localisation cellulaire sont de bons indicateurs, autant elles ne sont pas des plus précises. Les téléphones bornent aux tours les plus proches, parfois à des tours adjacentes à quelques kilomètres. Les données Google, elles, permettent une localisation précise. Mais quand les enquêteurs analysent le compte de Sydney, surprise, toutes les données ont été supprimées, le compte a été clôturé. Et si Sydney a fait ça, c'est pas parce que c'est un génie du crime, c'est juste que lors de son premier interrogatoire, les enquêteurs lui ont demandé ce qu'ils trouveraient s'ils analysaient ces données Google. Donc vous imaginez bien que ça l'a tilté et en sortant de l'interrogatoire, il a vite supprimé son compte. Désolé, mais les enquêteurs ont pas été assez malins. Mais bon, au moins, le dossier commence à s'articuler contre Sydney et Tammy. Toutes les preuves sont circonstancielles, mais tout est là. Il y a trop pour que ce soit une série de coïncidences. Et pendant tout ce temps, alors que la famille Deser passe son premier Noël dans la tourmente et dans l'angoisse, filmant l'ouverture des cadeaux pour que leur fille puisse les voir quand elle rentrera, Tammy et Sydney, eux, se lancent dans une toute nouvelle stratégie, la guerre des réseaux sociaux. Ils commencent par insulter Heather dans des posts dégradants. Ils racontent que c'était une fille de petite vertu, qu'elle buvait alors qu'elle était mineure, qu'elle prenait de la drogue, qu'elle se prostituait même. Sydney raconte qu'il est innocent, qu'il n'a jamais eu de relation à proprement parler avec Heather. Éventuellement, oui, elle lui a bien fait une fellation ou deux, mais rien de plus. Mais même ça, même souiller la mémoire de cette jeune femme disparue, ça ne leur suffit pas. Ils se mettent carrément à accuser la famille Elvis d'être impliquée, d'être responsable de la disparition. Selon eux, la sœur et le père sont responsables. Ils prétendent que la famille détestait les tatouages d'Heather, ses choix, ses relations. Ils suggèrent que les proches d'Heather lui voulaient du mal. Ils demandent même que le jardin familial soit creusé. Ils vont jusqu'à affirmer que Terry, le père, a un casier judiciaire qu'il a fait 10 ans de prison. Tout ça est complètement faux, mais ils l'avancent avec tellement de conviction que ça prend. Ils tentent de noyer le poisson, de détourner l'attention d'eux. Et malheureusement, sur Internet, on trouve toutes sortes de personnes, dont certaines sans grande cervelle. Et ces idiots se regroupent, créent des groupes, commentent les posts du couple. Ils reprennent la théorie de l'implication de Terry et ils retweetent sans vérifier leurs sources. Et bientôt, des dizaines, des centaines de personnes appellent à l'arrestation de Terry Elvis. Des posts comme
« Terry bat ses enfants et sa femme »
récoltent plus de 1500 partages et 500 commentaires. Certains partisans du couple commencent à suivre la famille Elvis, à les prendre en photo quand ils sortent de chez eux, à l'église, au travail ou au supermarché. Un jour, Terry appelle la police depuis le parking d'un fast-food complètement paniqué. Une femme le suit, elle semble armée et il pense qu'il s'agit de Tammy. Il croit la reconnaître mais n'en est pas sûr. La police arrive sur le champ et trouve la femme en question. Il s'agit d'Ashley, la sœur de Tammy. La police demande à voir son téléphone, elle accepte. Sa galerie contient des centaines de photos de la famille prises à différentes dates. Elle refuse par contre de les laisser fouiller sa voiture sans mandat, donc impossible de savoir si elle est armée ou pas. La police les renvoie chacun de leur côté. Mais un peu plus tard dans la journée, quand Terry se gare dans son allée et sort de son véhicule, Il est visé par 4 tirs d'armes à feu. Quelqu'un a tenté de l'abattre devant chez lui. Heureusement, ses poubelles pleines de burgers américains ont fait bouclier et il ne sera pas touché. On ne saura jamais qui a tiré sur Terry puisqu'il n'a rien vu, mais cette tentative de meurtre va pousser la justice à agir.
En février 2014, 2 mois après la disparition d'Heather, Sydney et Tammy sont enfin arrêtés et inculpés pour kidnapping et malgré l'absence de corps pour meurtre. Les enquêteurs ont constitué un dossier solide. En Caroline du Sud, la charge d'enlèvement est définie comme le fait d'attirer par ruse, d'amadouer ou d'emmener un autre individu. Donc, l'appel téléphonique dans la cabine que Sydney a passé pour attirer Heather par ruse constitue un enlèvement en Caroline du Sud. Les charges s'accumulent d'ailleurs puisqu'en plus de l'enlèvement et du meurtre, Sydney et Tammy sont accusés d'obstruction à la justice et de 2 chefs d'accusation d'exhibition sexuelle. En fait, pendant sa campagne d'intimidation, Tammy a envoyé à la famille une vidéo d'elle et Sydney en train de goûter aux félicités conjugales, dira-t-on, dans leur voiture et dans des lieux publics. Et ça, ma bonne dame, c'est illégal d'envoyer une vidéo non consentie à des gens qui ont rien demandé et c'est passible de poursuite. Quel charmant couple équilibré. Le 21 février 2014, seconde perquisition chez le couple. Après 11 heures de fouilles intensives, malheureusement, rien de décisif n'en ressort. Pas d'ADN, pas d'armes, rien de plus. Le jardin est passé au peigne fin à la recherche des traces de coups de pelle. Rien. Il y a bien cette dalle en ciment qui a été coulée récemment qui ferait rougir notre Xavier National, mais elle ne renferme aucun secret. Le pick-up, lui, révèle une dernière chose frustrante. C'est un véhicule neuf, donc équipé d'un système GPS. Les données du système pourraient révéler quelque chose. Par exemple, la présence du véhicule à Peachtree Landing le soir de la disparition d'Heather. Mais bien évidemment, le soir de la disparition à 7:30, le système est éteint manuellement. Il ne sera rallumé que quelques jours après. Conclusion pour les enquêteurs, le corps d'Heather Elvis reste introuvable, emportant avec lui la vérité sur ce qu'il s'est vraiment passé la nuit de sa disparition.
Mais pour les enquêteurs, une chose est sûre, ils tiennent les coupables et un procès doit être organisé. Ils sont sûrs de réussir à les faire condamner. Bon, ça va être un peu plus compliqué que ça quand même.
Sydney et Tammy se retrouvent derrière les barreaux en attendant leur procès. Leur petite vie bien ordonnée s'effondre comme un château de cartes et les enfants sont gardés aux bons soins de leur famille.
Mais quand on voit la sœur de Tammy qui a pris part à l'harcèlement, je suis quand même inquiet pour les gamins, mais ça c'est une autre histoire.
Malgré leur arrestation, Sydney et Tammy gardent le silence, surtout sur leur implication, sur le mode opératoire et surtout sur l'endroit où se trouve Heather. Et encore, sans armes du crime, sans traces de sang, les procureurs se voient dans l'obligation d'abandonner les charges de meurtre. Faute de preuves suffisantes, il semble impossible de pouvoir prouver que le couple a bien tué Heather.
La procédure est donc réduite aux charges de kidnapping et de complot en vue de commettre un enlèvement. Le kidnapping est puni de 30 ans de prison en Caroline du Sud, c'est déjà ça, mais c'est difficile à encaisser pour la famille d'Heather. Pour eux, c'est comme si on ne prenait pas vraiment compte l'horreur des faits.
Début 2015, après avoir été détenu pendant 11 mois, un juge accepte que le couple soit libéré sous caution. Ils paient chacun 100 000 $ et doivent respecter quelques conditions. Porter un bracelet électronique, ne pas s'approcher à moins de 8 km de la famille Elvis et ne pas interagir sur les réseaux sociaux. Mais évidemment, Sydney et Tammy ne peuvent pas s'empêcher de jouer les victimes. Malgré une ordonnance de non-divulgation leur interdisant de parler publiquement de l'affaire, ils prennent d'assaut les réseaux sociaux pour clamer leur innocence. Ils ne peuvent pas s'empêcher de fanfaronner. Mais ça ne s'arrête pas là. Des documents d'enquête, des documents confidentiels commencent mystérieusement à se retrouver en ligne. Les interrogatoires des amis des heures, les analyses de données téléphoniques, des documents auxquels seules les autorités ou les représentants légaux, comme les avocats, ont normalement accès. La théorie principale est que Tammy et Sydney sont derrière tout ça.
Bah oui, parce que si les documents fuitent trop, bah ça va créer un vice de procédure. On ne pourra pas organiser le procès puisque
puisque aucun jury impartial ne pourra être trouvé. Tout le monde sera déjà au courant de l'affaire dans les moindres détails et aura déjà son opinion. Il n'y aura pas de révélation lors du procès. Mais heureusement, la justice américaine va quand même organiser les procès. Et le premier à y passer en juin 2016, c'est Sidney. 4 jours de procès où les collègues de Heather témoignent de sa liaison avec Sidney, de sa grossesse probable, de l'enfer que lui faisait vivre le couple. Les preuves s'accumulent, l'étau se resserre. Mais après 7 heures de délibération, c'est l'impasse. 10 jurés veulent condamner, 2 s'y refusent. Le procès est suspendu et reporté. Mais ce gros débile de Sidney, qui à ce moment-là aurait pu s'en sortir sans rien pendant quelques mois, viole l'ordonnance de non-divulgation en parlant aux médias pendant le procès. Résultat, 5 mois de prison. Un an plus tard, en juillet 2017, son procès pour obstruction à la justice s'ouvre. Cette fois, l'accent est mis sur les données téléphoniques et la vidéosurveillance qui ont disparu. Sidney est finalement reconnu coupable d'entrave à la justice et condamné à 10 ans de prison. Je vous rassure, ça s'arrête pas là. En septembre 2019, soit presque 6 ans après la disparition d'Heather, Sidney passe finalement en jugement pour enlèvement. Cette fois, l'arsenal de preuves est encore plus solide pour être sûr qu'il puisse être condamné. Un nouveau témoin est appelé à la barre, un certain Donald DiMorino, un détenu qui a contacté les autorités parce qu'il pense avoir des infos. Il est le cousin de Tammy et il affirme que Sidney lui a montré sur son téléphone une photo de Heather décédée et ensanglantée avec des griffes sur le visage. La photo n'a jamais été retrouvée, mais le témoignage est accepté par la cour puisque Donald n'a signé aucun accord avec la justice en échange de sa confession. Donc, il a aucun intérêt à mentir. Le jury met moins de 2 heures à rendre son verdict et cette fois-ci, Sidney est reconnu coupable. Il écope de 30 ans de prison, mais continue de clamer son innocence. Il n'a rien fait à Heather et se dit victime d'une grave erreur judiciaire. Tammy, elle, ne passe qu'une seule fois devant le tribunal. Son procès s'ouvre en octobre 2018 et ça va vite. Enfin, on découvre le vrai visage de cette femme. Elle est arrogante, elle se sent plus intelligente que toute la salle d'audience. Les preuves s'accumulent, les mêmes que pour Sidney, avec en plus ses délicats messages menaçants et ses posts Facebook où elle traite Heather de psychopathe, notamment. Tammy maintient sa version pathétique. La nuit de la disparition, elle et Sidney sont allés au bar, ils ont eu des relations sexuelles dans leur pick-up et ils sont allés acheter un test de grossesse pour elle. Elle témoigne avec une confiance déconcertante. Elle se permet même d'appeler la procureure par son prénom. Selon elle, l'enquête a été bâclée. Elle était le bouc émissaire idéal. Elle ose même dire qu'elle est bien navrée pour Heather parce que, à cause des enquêteurs, son cas ne sera jamais résolu. Après 2 semaines de procès et 4 heures de délibéré, le jury la déclare coupable. Elle écope de 30 ans de prison. Même motif, même punition. Selon la justice, Sidney et Tammy sont reconnus coupables au même titre de l'enlèvement d'Heather et de sa disparition, même si malheureusement ils ne peuvent pas être reconnus coupables de son meurtre. Évidemment, nos deux champions interjettent appel, mais leurs appels sont rejetés. Tammy sera éligible à une libération conditionnelle en 2044, Sidney vers 2046, après avoir effectué 85% de leur peine. Et si vous êtes toujours sur cette chaîne d'ici là, je ne manquerai pas de vous en tenir informé. En tout cas, moi je serai là. À ce jour, on ne sait toujours pas exactement quels ont été les derniers instants d'Heather, ni où est son corps, et sa famille continue de se battre pour la retrouver et lui offrir une tombe décente. Mais ce dont on est sûr, au vu du profil du couple, c'est que la jeune femme a vécu l'horreur dans ses derniers instants et a dû subir un déchaînement de violence dont elle ne s'est jamais relevée. Si vous avez regardé cette affaire jusqu'au bout, dites-moi si vous auriez jugé coupable ou non le couple du meurtre d'Heather. Vous l'avez vu, au vu des preuves recueillies, en tout cas la justice américaine n'a pas pu les condamner pour meurtre, mais heureusement ils ont quand même pu être condamnés pour kidnapping pendant 30 ans. Enfin, plutôt pour 30 ans de prison, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'était Max Keyes, c'est le retour des HVF, merci d'avoir été patient, voilà, ça m'a fait plaisir, merci beaucoup pour tous vos messages. N'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça motive. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante. Et puis, bye.